Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, encore neuf mais déjà familier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, aux marges du territoire, une série de Julie Gacon, réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a des entre-deux, des confins qui sont des commencements, autant que des fins, des lieux familiers et pourtant étrangers de ces territoires qui mordent les uns sur les autres, que l'histoire a enchevêtrés et que l'usage rend hybride. Des endroits qui sont des frontières administratives où l'on traque les migrants, autant que des territoires d'enfance. Des lieux indéterminés à statut particulier, où la prostitution a pu s'installer, des lignes imaginaires qui sont pourtant parfois la limite réelle entre la vie et la mort, ou simplement un lac qui sépare le pays où l'on vit de celui où l'on travaille. Pour commencer, les personnages. Un éditeur qui arpente de loin un territoire interlope, une auteure qui a imaginé les vies des prostituées de la Jonquera, un guitariste qui fait grincer son instrument, des clients qui ne pensent qu'à leur plaisir, des vendeurs qui cherchent à se faire une marge des chercheurs qui scrutent la zone grise. Ensuite, le décor. Des étalages sur les trottoirs, une ville qui est un entre-deux, des lieux où l'on ne fait que passer, des parkings, des centres commerciaux qui écoulent hors taxe l'alcool et le tabac, des bordels d'où s'échappe de la musique. Aujourd'hui, premier épisode, on est en France et en Espagne, près du col du Pertus, dans ce que l'on appelle une ville frontière où le sexe est tarifé.
Bah, d'ici là où nous sommes, on entend plus les oiseaux que les camions qui sont tout en bas. Il n'y a qu'à s'écarter des parkings de camionneurs de la Jonquera et on traverse une subraie, puisque avant c'était l'économie du bouchon. Il y a énormément de chênes-lièges qui sont plantés ici. On monte et là il y a un restaurant très sympa. Et on voit en face le village d'Agouyan. On voit ces collines, on voit les alberges, la frontière naturelle avec la France, et on voit le balai incessant des camions en bas. Après, la frontière, où est-ce qu'elle est, là, c'est une autre histoire. C'est presque métaphysique comme débat. C'est ça, d'ailleurs, qui m'a toujours fasciné, quoi, dans cette notion de frontière.
Entre la France et l'Espagne, à l'extrémité orientale des Pyrénées, une faille pour franchir la barrière montagneuse. Un interstice où s'est dessiné d'abord un chemin, puis une route, enfin une autoroute pour relier les hommes, permettre l'échange, le commerce, la fuite de l'oppresseur aussi. Une voie à double sens pour passer de l'autre côté, avec l'idée que ce doit être mieux, ou plus avantageux, plus libre, ou peut-être plus permissif.
Jeu de frontières. Entre la France et l'Espagne. Julie Gacon, Yvon Croisier.
Philippe Salus, quand nous sommes arrivés à la Jonquera, vous nous avez fait tourner à gauche et prendre une petite route qui monte jusqu'à cette esplanade d'où nous avons une vue surplombante sur la Jonquera, une forêt de chênes et une rivière de camions.
Il faut comprendre qu'en fait la Jonquera existe depuis relativement peu de temps et ça poussait comme un champignon au milieu de nulle part. Quoi. C'est quoi ? C'est une grande quatre voies de 3 à 4 km de long. Et dès qu'on quitte, c'est la campagne. Un peu plus loin, vous pouvez croiser des bergers avec des moutons, des brebis. Simplement, il faut s'écarter un peu, faire un petit pas de côté par rapport à l'autoroute.
Vous ne nous avez pas fait prendre l'autoroute pour venir ici. Nous avons traversé la frontière entre la France et l'Espagne par le col du Pertus.
Oui, je voulais absolument qu'on passe par le Pertus pour que vous voyez l'antique route, non pas celle qu'a prise Hannibal, mais la route que l'on prenait dans les années 60-70 à l'époque des grandes transhumances. L'autoroute n'existait pas et les Français partaient tous en même temps et il y avait des bouchons du poste frontière du Pertus jusqu'à Narbonne. Plus de 100 km de bouchons, quoi.
On était avant les traités de Schengen.
Oui, bien avant.
Avant l'ouverture des frontières.
Oui, oui, bien avant.
Alors, je suis Michel Vernibet, ancien maire du Perthus. C'est une ville tout à fait particulière, étant donné que la frontière passe au milieu du village. Et il y a un côté espagnol et un côté français. Le côté espagnol dépend du village de la Jonquière, qui se trouve à 6 km. Et nous gérons bien sûr le côté français.
Comment le Perthus s'est développé autour de cette frontière ? Première image qu'on peut avoir, c'est Salvador Dali, que vous avez un temps fréquenté, je crois, quand vous étiez petite, qui arrive avec sa Cadillac noire pour dédouaner ses tableaux.
Oui, alors justement, vous avez dit le mot « dédouaner ». Il y avait une frontière douanière. Mon grand-père, Casademont, avait une grande entreprise de transport et donc faisait tout ce qui avait trait à la frontière, c'est-à-dire les transports, nous faisions des échanges de monnaie aussi. Il était ami donc de Salvador Dali, c'est comme ça que, n'est-ce pas, Salvador Dali était un de nos clients quand il passait pour les tractations douanières de ses tableaux. Il y avait tout ce qui avait trait à la différence entre deux pays. Et ces différences-là, en grande partie, ont disparu, mais pas toutes. D'ailleurs, juste en face de la maison, vous avez la borne frontière qui délimite l'Espagne de la France. Après, vous avez les contrôles à la sortie du village, assez lourds pour le terrorisme. Côté français, vous avez le poste de police international, qui est un peu l'équivalent d'Interpol, le CCPD. Ce n'est pas un no man's land.
Sophia Varghez, directrice du département de sociologie ici à l'Université de Perpignan, vous qui avez beaucoup travaillé sur la Jonquière en immersion pendant 2 ans dans le village de la Jonquière, car il y a un village à la Jonquière. Est-ce qu'on peut commencer par planter le décor ?
La Jonquière est la première ville frontalière. Il y a un centre-ville qui est plutôt le lieu du calme et de l'entre-soi et qui est souvent ignoré des touristes qui fréquentent cette zone et une périphérie commerciale. Jusqu'alors, l'économie de la ville était basée justement sur l'activité douanière et transitaire. Et puis en 92, avec la levée de la frontière, toutes ces... cette activité douanière et transitaire a disparu. Alors l'ancien maire de la ville, Jordi Cabessa, que j'ai pu rencontrer, me disait que 800 personnes ont perdu leur emploi sur la petite ville de la Jonquière et que pour éviter une exode massive de la population, il a fallu trouver des solutions. Et c'est encore l'effet frontière qui a été privilégié et là, c'est l'activité commerciale qui s'est développée de manière massive. Alors les activités commerciales, elles sont destinées donc principalement aux Français frontaliers. Ils y viennent faire leurs courses, faire l'essence, acheter des cigarettes qui sont moins chères qu'en France. Mais il y a aussi tout un développement de l'activité de service à destination des routiers qui passent dans la ville de la Jonquière.
Chargés de tout ce qu'on veut, de fret, de victuailles, de bestiaux, de drogue. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier qu'ici, c'est un passage de drogue. Il y a les go-fast d'un côté, mais il y a aussi les camions. Là encore, ce matin, avant-hier, dans l'Indépendant, j'ai lu il y a des prises dans des camions quasiment tous les jours de shit hein, qui transitent par les camions. Quoi.
Cette frontière, elle vous fascine, Philippe Salus, aussi en tant que gérant d'une maison d'édition que vous avez fondée dans les années 90, la maison d'édition Mare Nostrum, dans laquelle vous avez fait paraître plusieurs ouvrages qui concernent cette frontière franco-espagnole, une frontière que vous avez souvent traversée, sans doute quand vous étiez petit, que vous viviez à Perpignan.
J'étais adolescent. Ouais. Il y avait une scène rock à Perpignan dont je faisais partie, et il y avait pas mal d'amis qui allaient en Espagne pour acheter des matières illicites. Hein. Passer la frontière, c'était quelque chose que ça se faisait le vendredi soir ou le samedi soir. Ça partait en goguette 2-3 jours. Alors, et je me rappelle les Catalans qui tenaient les bureaux de change, moustachus avec le mégot de cigare dans la bouche et ces bureaux de change qui étaient éclairés, quoi.
Alors un peu sur le modèle de Las Vegas cerné du désert, ici on a une immense zone industrielle et commerciale cernée par les montagnes et par la garrigue.
Oui, moi je compare ça, sans y être allé malheureusement, au Tijuana espagnol, quoi, cette ville frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui est une ville de tous les trafics.
Et entre les chaînes Liège, donc d'énormes hangars qui sont des commerces XXL, c'est ici une zone où finalement on n'a pas grand-chose d'autre à faire que d'acheter et de vendre.
Oui, ici il n'y a que le commerce, hein.
Viens un peu côté le reportage, allez, dites là.
Qu'est-ce que vous vendez?
Les lunettes, les montres.
Des lunettes et des montres,
oui.
Ici en Espagne,
oui.
Sur le trottoir espagnol du,
oui,
Pertus.
Oui.
Et qu'est-ce que les gens viennent acheter ici sur le trottoir espagnol?
Viens au magasin, achète les vêtements, l'alcool, les cigarettes.
Et les hommes qui viennent ici au Pertus, ils descendent après un peu plus bas, à la Jonquère?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Les gens achètent comme ça, les vêtements, il y a les magasins et les vêtements et tout.
Et les femmes?
Ah, ça ne sait pas.
Les dernières?
Peut-être. Il y a beaucoup là-bas.
Il y a beaucoup de femmes.
Il y a beaucoup de femmes, oui.
Michel Vernillet, 2002, la Catalogne libéralise la prostitution?
Tout à fait, c'est une frontière sur ce plan-là aussi, bien sûr. La loi est beaucoup plus permissive au sud, sachant que 80% de leur clientèle est française, n'est-ce pas? Donc il y a là-dedans une espèce d'incohérence. On en est désolé, c'est une triste affaire, mais bon, ça n'a pas l'air de troubler les autorités du sud.
Cette frontière, Philippe Salus, a toujours été une frontière morale.
Oui. J'ai vu des Espagnols venir dans les années 70, à l'époque du dernier tango à Paris, parce que c'était encore le franquisme, c'était interdit, et ils venaient par quarantier voir le dernier tango à Paris, notamment un cinéma en face de chez moi, Le Français, et voilà.
Film considéré à l'époque comme érotique.
Oui, considéré comme érotique. Ils venaient pour ça et il y avait donc les sex shops avaient un peu fleuri. Il y avait plusieurs sex shops à Perpignan.
Un de vos auteurs, Renaud Rebardi, qui a grandi à Perpignan, lui aussi raconte que dans les années 70, les écoliers, comme lui, s'amusaient de ce que les cinémas de Perpignan placardaient des affiches pour les films porno de l'époque, avec la mention, la précision sous-titrée en espagnol, et eux de rire, mais quel sous-titre ?
C'est vrai, certainement. Oui.
Alors ça, Philippe Salus, c'était l'époque où des Espagnols franchissaient la frontière pour venir en France, s'adonner à des plaisirs interdits. Aujourd'hui, c'est le mouvement inverse qui s'opère. Et de là où nous sommes, on peut plus ou moins décrire cette Jonquère du sexe avec des bordels. Vous le dites comment, vous?
Des clubs, moi je dis des clubs. Hein. Mais c'est des bordels, oui. En espagnol, le mot espagnol, c'est « puti club ».
Et ce sont elles, ces maisons closes, qui ont inspiré un roman que vous avez publié il y a quelques années aux éditions Mare Nostrum, un roman signé Renaud Rebardi et qui commence dans ces termes.
J'y vais. Pour pénétrer dans le village de la Jonquère, à la frontière franco-espagnole, il faut quitter l'autoroute puis passer sur un pont. On arrive à un rond-point, au centre.
Au centre, sur le tertre de terre nue, trois filles se tenaient debout, là, dans le vent qui soufflait fort et dans le froid de mars. L'une des filles était brune, l'autre était blonde. Elles avaient des jupes courtes et des chapeaux de cow-boy assez incongrus à 11h du matin à ce carrefour désert. La brune et la blonde agitaient leurs mains au-dessus de leur tête. Elles souriaient, ululaient, en faisant semblant de danser. Et soudain, la troisième, celle qui était derrière, se pencha vers l'avant, main sur les fesses, qu'elle fit mine d'écarter de façon à bien montrer tout ce qu'elle pouvait offrir. Zoom sur sa chair blanche. L'image ne dura qu'une fraction de seconde. L'instant d'après, les trois filles étaient déjà dans le rétroviseur. « Bienvenue à la Jonquère », soupira Ferran. « Le paradis des consommateurs de pastis, des camionneurs internationaux et des baiseurs compulsifs.
La Jonquière, c'est un endroit à la frontière franco-espagnole sur le littoral méditerranéen. Ça a toujours été un endroit de passage économique, de passage touristique. Ça a été une zone très très peu développée, on va dire, jusqu'à la mort de Franco en 1975. Et le développement économique s'est fait essentiellement sur, entre guillemets, la différence fiscale entre la France et l'Espagne, et l'Espagne et le reste de l'Europe. Et les bas coûts sur le petit matériel, sur l'alcool, le tabac. Et au virage des années 2000, cette partie la plus pauvre de la Catalogne, qui est la Haute Empordà, est devenue un espace dérégulé en matière de prostitution. En permettant aux exploitants de salles de spectacle, d'activités nocturnes, de pouvoir se constituer en proxénètes légaux, littéralement. Et donc de dépénaliser pour le coup la prostitution, tant qu'elle reste à l'intérieur des lieux d'aisance, des maisons closes, des bordels.
Dominique Sistac, la revue toulousaine Gibraltar vous a commandé, à vous, professeur de droit public à l'Université de Perpignan, une nouvelle intitulée « La putain et le sociologue » où vous racontez la première fois que vous avez été confronté à ce qui deviendra votre objet d'étude principal.
À l'été 1999, de retour de festivités particulièrement soutenues, accompagné de deux comparses débonnaires siégeant dans un vieux break blanc passé, simplement vêtus de shorts, sniffant le restant de leur cocaïne, reliquat de deux jours de fête, entre Gérone et la frontière, je croise dans les toilettes javelisées d'une station-service une jeune femme plutôt commune dont la tenue et l'interpellation me figent. « Tu veux que je te suce ?» Simplement vêtue de deux bandes de sky couvrant son intimité, cette gamine me barre la route, des tinettes avec un aplomb me laissant sans voix. La main posée sur le montant de la porte, elle baragouine un broken Spanish, fait de prix, de pauses, de circonvolutions de langue et de suggestions bien curieuses au vu de l'endroit. Je retrouve mes deux lascars, me regardant sortir de la station-service, suivi par la petite qui m'interpelle encore. « T'es pédé ou quoi ?»
Ça s'est passé comme ça.
Ça s'est passé réellement comme ça.
Bienvenue à la Jonquière, le paradis des consommateurs de pastis, des camionneurs internationaux et des baiseurs compulsifs.
Des baiseurs compulsifs, qui peuvent parfois être les mêmes. Plus loin s'élevaient quelques immeubles cubiques. C'était là. En fait, la Jonquière n'existe pas. C'est un mythe, une illusion, le genre d'endroit qu'on se dépêche d'oublier, sitôt après la pause pipi.
La Jonquière n'existe pas, Philippe Salus. Et pourtant, nous y sommes, sur l'un de ces parkings où erre Ferran Sagador à la recherche d'une prostituée roumaine dont il a trouvé des lettres par hasard dans une vieille valise.
Oui, là nous sommes en pleine Jonquière, hein, c'est sûr. Nous sommes à 30 mètres du Paradise, l'élément emblématique de la Jonquière, puisqu'il s'annonce comme le plus grand bordel d'Europe. Et au carrefour où les camions s'apprêtent à bondir à la conquête de l'Europe. Voilà.
La façade du Paradise, ce sont des palmiers qui clignotent, un grand bâtiment couleur brique, nightclub, showgirls, est-il écrit en lettres clignotantes sur la façade, une ambiance à la De Palma.
Oui, pourquoi pas. Ce qu'il y a de bien à la Jonquière, c'est que chacun y voit ce qu'il amène dans son imagination. Et c'est ça qui est bien, c'est un peu l'auberge espagnole.
Sophia Varghez, pour la rédaction de l'ouvrage collectif que vous avez dirigé aux éditions Balzac, du visible à l'invisible, prostitution et effets frontières, vous avez donc pu voir comment cette ville frontalière avait dû se transformer en 1992 et trouver, s'inventer un avenir. Donc on y va autant pour acheter des t-shirts et de l'alcool moins cher que pour s'offrir du sexe tarifé.
Effectivement, si on s'intéresse peut-être là plus au discours des jeunes des Pyrénées-Orientales qu'on a pu rencontrer dans le cadre de cette étude, ils associent le passage de la frontière à trois usages, faire les courses, faire la fête, et aller dans les petits clubs. Et ces trois usages de la frontière sont associés à trois représentations du territoire. C'est-à-dire que quand ils parlent de faire leurs courses, ils font leurs courses dans la zone. Ils se disent avoir l'impression d'être nulle part. Ils parlent de duty-free à ciel ouvert. Quand ils parlent de faire la fête, là, ils font référence à une géographie plus ouverte. Ils parlent de faire la fête sur la côte, Rosas, etc., etc. Les jeunes disent avoir l'impression d'être ailleurs. Et on a l'impression que les petits clubs font un peu la jonction entre être nulle part et ailleurs.
Je crois que c'est le propre. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les zones morales de ce type dans le monde. Elles ont toutes ce côté cheap, en toc, ce côté également aussi qui nous ramène à quelque chose comme la vie dans le lotissement, l'hypermarché, etc. Ce que Auger, l'anthropologue français, appelle aussi des non-lieux, hein, des endroits où on ne peut pas se rencontrer. Donc il y a une esthétique des décombres qui s'est faite avec un peu de strass dessus pour donner un peu l'illusion. Mais je pense que les clients le disent assez bien, personne n'est dupe.
Ça, c'est le Grand Madams, qui est un petit club qui existe depuis le début des années 2000 et qui avait fait scandale. On en avait parlé outre-Atlantique, je crois, jusqu'au Canada, parce que c'était un ancien hôtel-restaurant, mais en plus où il y avait une chapelle qui dépendait de l'évêché de Figueres, quelque chose comme ça. Et le prêtre s'était un peu insurgé, mais bon, l'ironie de l'histoire, c'est que la chapelle était dévolue aux filles désespérées, quoi. Donc, c'était tombé juste.
Alors, ce critère du catholicisme, notamment, ou de la pratique religieuse et morale telle qu'elle est faite en Espagne, beaucoup d'historiens espagnols ont travaillé cette question et l'ont développé en disant que ça n'était pas une contradiction qui aboutissait à un paradoxe. C'est-à-dire, il n'y a rien de paradoxal dans ceci. Le bordel est le contre-espace social qui permet à la société, notamment des couples, de trouver son équilibre. C'est presque un espace de décompression sociale du couple qui est en jeu. Et donc, il y a une forme d'intégration tolérante, y compris du point de vue du clergé par rapport à ceci. Certes, la femme y apparaît dans son désarroi le plus total, mais c'est aussi le symptôme d'une femme diabolique qui menace le couple, qui menace la société. C'est presque une mise à l'écart. C'est la prison sans être la prison qui permet de mettre la mauvaise femme de côté. Donc, pas illogique en soi, mais désormais disproportion de l'activité prostitutionnelle, parce qu'on n'est plus du tout dans le contre-espace qui stabilise la société. On est dans un non-lieu qui se généralise et qui est en train de déstabiliser les structures sociales les plus élémentaires, l'activité quotidienne, etc., etc.
Oui, je pense que véritablement, il y a une frontière invisible qui se joue là entre un centre-ville qui est vraiment le lieu de l'entre-soi, le lieu des habitants de la ville de la Jonquière. Et je pense que beaucoup de touristes qui passent la frontière ignorent totalement l'existence de ce centre-ville et de cette vie de village. La Jonquière est dans les esprits assimilée vraiment à cette zone commerciale très dense et les clubs de prostitution.
Alors les clients qui traversent la Jonquière ignorent ce centre-ville, sauf s'ils se perdent, ça arrive, et prennent les femmes de la Jonquière pour des prostituées. Elles vous ont dit souvent, enfin, que toutes les femmes de la Jonquière étaient déjà passées par là.
Oui, effectivement, les habitantes peuvent raconter ça le plus souvent comme une anecdote dans leur quotidien. Mais au final, je pense que toutes les femmes, quelle que soit la ville, dans l'espace public, ont au moins une fois dans leur vie, voire plus, été interpellées par des hommes et être prises pour une pute.
Les autres filles du Grand Madams, elles descendent vers la salle. On porte toutes des chaussures très hautes, à talons aiguilles ou à plateforme. Ça nous donne des airs de princesse. Mon numéro va commencer. J'entends l'intro de la chanson Ringarde. Va falloir que je me trémousse accrochée à un pilier au milieu de la scène. Je montre tout. Avant, avec mes parents, on allait dans un resto où il y avait une grande affiche colorée avec toutes les parties comestibles du bœuf. Animal de profil avec zone délimitée en pointillé. Beefsteak. Bavette. Filet. Contre-filet. Gîte. Culotte. Poitrine. Cuisse. Tourne-dos. Exposée, je suis. Aux fins voraces des camionneurs, aux yeux exorbités des puceaux, des mal mariés, des pas baisés, des célibataires en manque, des accros du sexe. Toute la gamme des pervers fait craquer les bifetons dans ses poches, ils sont là, fidèles, prêts à se payer une pute comme moi, free of tax, à la Jonquera. Trou mondial des filles à baiser.
Ça fait quand même bizarre de le dire ici.
Ici, c'est vrai qu'on ne se sent pas aussi près de ce trou mondial des filles à baiser. On est à 1 km de la Jonquère, entre les vignes et les oliviers, Anne Bourrel, pour lire des extraits de votre livre « Grand Madams » que vous avez publié à la Manufacture des Livres. Avec votre guitariste Gilles Non, on n'est qu'à 1 km en fait du Grand Madame, ce club qui a donné le titre de votre roman.
Je crois qu'on est même juste au-dessus.
Où ça, à votre avis ?
Par là.
Vous y êtes déjà allé ?
Au Grand Madame ? Je me suis arrêtée au parking, j'ai déjà vu beaucoup de choses sur le parking.
Vous avez vu quoi ?
Ça ressemble à un monastère. Vous avez vu sur le côté ? Quand on se penche légèrement à gauche, on voit les fenêtres des chambres. Et elle ressemble bizarrement à un monastère.
Votre vision à vous, une vision fantasmée de la Jonquère.
Oui, exactement. J'ai pas fait un documentaire sur la Jonquera. J'ai placé mon personnage, Bégonia Mars, et puis je l'ai laissé vivre toute seule, en fait, sa vie de prostituée.
C'est donc par ses yeux à elle qu'on découvre l'intérieur du club, et notamment le fait que dans les chambres, la lumière s'éteint toute seule au bout d'une demi-heure.
Ouais, par exemple, ouais. Il faut remettre du pognon. Ouais, ben c'est le marché des corps, le marché des femmes. Les femmes sont à vendre à la Jonquera.
Bégonia Mars, quel est son parcours, son histoire familiale ?
On la découvre au moment où elle est déjà, où elle a déjà un pied dans la prostitution. C'est-à-dire, elle est dans un cabaret à Perpignan. En train de faire le service topless, et puis petit à petit... D'ailleurs, puisque votre émission, c'est sur la frontière, elle passe la frontière pour devenir une prostituée. Donc c'est quand même un passage à une sacrée frontière, devenir une prostituée. On passe d'un corps vivant à un corps mort. Pour moi, une prostituée, c'est une femme qui est morte. Et puis, mais elle ne cesse de traverser des frontières, de toute façon. Elle franchit la frontière de l'invisible, surtout. C'est-à-dire qu'elle est la seule personne, le seul personnage qui va aller au-delà des apparences. Et la frontière, c'est peut-être ça. C'est ce moment où les choses deviennent visibles. Ici, on voit des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Elles sont là, proposées, ouvertes.
Anne Bourrel, pour votre roman Grand Madams, vous avez traîné 2 jours sur les parkings vastes et noirs, au-dessus encore du ciel bleu. Entre ces 2 surfaces que l'on dirait infinies, des enfilades de camions, des 38 tonnes comme des mammifères patients autour d'un point d'eau. C'est non seulement une vision fantasmée que vous donnez de la Jonquère et plus particulièrement de ce club-là, mais c'est aussi une vision de femme.
Eh oui, oui, je suis née femme, je vois avec mes yeux de femme. Mais est-ce que c'est important ?
Je sniffe et resniffe entre 2 portes qui s'ouvrent et se ferment. C'est le grand tournis. J'ai chaud. Pas le temps pour une douche, il y a affluence, faut assurer. J'ai du métier. Un type me choisit. Il pointe son doigt en avant, il se tortille jusqu'à moi, aplatit direct ses mains sur mon cul. Il veut prendre ce qui est à lui. Il me souffle dans le cou, mais c'est pas pour me dire de jolies choses. Il veut juste que je lui dise le prix alors qu'il le connaît, le prix. C'est marqué à l'entrée, mais il veut ça, le client. Que ce soit la pute qui dise combien elle coûte. On finit par monter, il est là pour ça. Il glisse l'argent dans le parc-mètre devant la porte. Je ferme la porte. Ils sourient tous de la même manière quand ils s'approchent de moi. Après avoir déposé l'argent dans le parc-mètre, là, à cet instant, ils montrent leur visage en pleine lumière pour que je voie jusqu'à quel degré d'hilarité et d'horreur ils se prennent pour les maîtres du monde. Ils me croient soumise, mais c'est sûr, ils ne paient que l'ouverture des jambes. Le reste, ma haine qui les pénètre, ils ne la sentiront que plus tard. C'est avec cette pensée-là que je supporte, en général. J'ai les jambes ouvertes et le type s'affale dedans. J'aimerais avoir des dents dans le sexe pour mâcher le type, le mâcher tout entier depuis le bout de sa queue jusqu'à sa tête que je ne regarde pas. Mais il n'y a rien dans mon sexe, il n'y a rien dedans, que de la chair de vieille pute, que de la chair de jeune morte. Mais s'ils y vont avec autant d'entrain, c'est qu'ils doivent y trouver leur compte.
Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Vous sortez du Paradise. Est-ce que vous venez souvent?
Ah si.
Quand le week-end?
Week-end à la paye, aux accomptes. Il y en a qui vont au bar, il y en a qui fument. Nous, on vient ici, passer du bon temps.
Nous, on aime les femmes.
On aime les femmes. C'est propre, c'est nickel, c'est respectueux. Enfin, je veux pas mélanger avec un club échangiste, c'est différent parce que le club échangiste, on ne paye pas. C'est des femmes qui viennent avec leur mari, c'est que pour ça. Mais c'est un peu dans le même style. C'est bien, c'est bien.
C'est un rituel que vous avez tous les trois entre amis?
Voilà, on peut dire ça. On vient se passer du bon temps. C'est-à-dire qu'ici, on paye. On ne cherche pas à savoir le passé qu'on avait, si on est beau ou on n'est pas beau, ils n'en ont rien à foutre. On veut passer un bon moment avec des femmes, ne posons pas de questions, c'est parfait.
C'est pas vrai, vous allez en boîte, vous allez payer la boîte, vous allez payer la bouteille, vous allez rencontrer une demoiselle, il va falloir lui payer le restaurant, il va falloir l'inviter là-bas. Et tatati, et tatata, ça va vous coûter 500 euros, et tant que ce n'est pas un bon coup.
Donc, pas le premier soir en
plus. Voilà, et pas le premier soir, soi-disant.
Est-ce qu'il vous arrive en France d'aller voir des prostituées?
Non, jamais. Interdit.
Dans la rue, dans la machine.
Sur les routes, c'est pas propre, c'est dégueulasse.
Voilà, c'est dégueulasse. Là, c'est...
Est-ce que vous êtes aussi inhibé par la loi française qui, depuis quelques temps, pénalise?
On ne s'en sent même pas concerné parce qu'on n'y va pas du tout, on n'y pense même pas. Moi, je vais ici parce que ça m'a plu de venir ici. C'est différent d'une femme que je vais
accoster. C'est un
fantasme. C'est différent.
Bon, pour 50 euros, vous avez une gonzesse de 25 ans, voilà, c'est tout, quoi. Et on en a 60.
Vous êtes jamais rentré?
Alors, si je peux me permettre, vous rentrez, mais juste dans le but de regarder le fonctionnement. Il faut regarder, il faut voir. C'est le paradis des hommes, l'homme est roi là-dedans.
Ouais, moi, j'ai regardé, j'ai passé une demi-heure. Bon, je vais manger, je vais revenir. Je monte 4-5 fois dans la soirée. Hein.
On a fait ce qu'il faut.
On va manger des dans une gargote qu'on connaît là. On va manger des machins à la plancha, tout ça, on va se faire un bon resto tous les trois là. Et après on continue la soirée, c'est pas fini pour nous. Et on fait la fête comme ça, et après on rentre et...
Faut amortir les 300 km là-haut. C'est un budget de 300 euros à peu près.
D'ailleurs, on est au paradis. On ne voit pas qu'ils font pas des clubs comme ça en France, hein. Ils devraient en faire, non? Ça serait cool d'en faire un club comme ça en France.
Alors il n'y a pas de club comme ça. Les prostituées, c'est 1500 euros d'amende. Comment ils font les mecs qui peuvent pas? Comment ils font? Il va avoir des viols, il va avoir des ci, il va avoir des ça.
C'est pas oublier, hein, c'est voilà. L'un des plus vieux métiers du monde, non, la prostitution. Et là, on ne peut plus les appeler des prostituées, c'est des hôtesses. Hein. Elles sont là pour bosser, mais pour donner du bon temps. Voilà. Et tout le monde y trouve. Et à force, on a lié des liens, des feedings, des sympathies.
On a le numéro de téléphone.
Eh oui, c'est toute une histoire. Attendez, c'est pas comme ça. Oh. On vient pas comme des goujats, on vient, on couche avec la femme, on l'appelle au samana.
Il faut pas monter avec vous, hein. Elles sont dans le droit de monter avec elles, voilà.
Elles sont libres au choix.
Ah oui. Vous savez comment ça fonctionne dedans? Alors c'est simple. Si les filles veulent travailler, elles filent 70 euros pour travailler. Et tout ce qu'elles gagnent, c'est pour elles. Elles donnent 70 euros, un casier, une clé, elles paient ses affaires, elles prennent son sac et elles travaillent.
Bon, on va se manger des sachets à la plancha dans un endroit qu'on connaît. Vous aurez bien invité. Mais vous, Julie, dedans. Au moins, tu auras une idée de ce que c'est. Je te dis, tu es. Ciao, à la prochaine.
Pour écrire votre roman, Anne Bourrel, vous n'avez pas essayé, ne serait-ce qu'essayé, d'entrer dans un de ces clubs ?
Si. Si, j'ai essayé, mais j'étais refoulée à l'entrée, en fait.
Et est-ce que vous savez ce que les patrons de ces clubs, qu'on appelle les managers, répondent aux femmes qui essayent, cherchent à savoir pourquoi elles n'ont pas le droit d'entrer ?
Vous n'êtes pas à vendre.
Ils disent d'abord, vous pourriez être une femme qui cherche son mari. Et nous, notre argument, c'est la confidentialité. Ils disent aussi, attention, des hommes en meute là-dedans. Ça peut être dangereux pour vous, femmes. Et ils disent enfin, vous êtes de la concurrence déloyale.
Ouais, vu les magnifiques créatures que j'ai vues aujourd'hui, c'est pas sûr ça quand même.
Ferran Segador, le personnage du roman, lui n'est pas un habitué de ces petits clubs. Il va pour la première fois en franchir la porte, celle du Dallas, qui est le club historique de la Jonquière. Peut-être que vous pouvez nous raconter ce qui se passe derrière cette porte, vous, Philippe Salus.
Si mes souvenirs sont bons, au moment où il pénètre dans le club, il voit une nuée de filles et qui ont mille bras... et qui veulent, tels des tentacules, qui veulent agripper tous les clients qui se présentent dans le club. Il est un peu affolé, et puis il commence quand même à regarder avec plus d'attention, et il voit que ce n'est pas un monstre tentaculaire, mais que ce sont des filles dont chacune est tout à fait jolie. Et elles commencent leur service à 17h, elles finissent à 4h ou 5h du matin. Elles sont tous en toute petite tenue. Mais ce qu'il y a, c'est, comment dire, il faut voir que ça se présente, la spécificité de tel lieu, c'est comme une grande discothèque. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les bars à bouchons de Pigalle, où il faut acheter une bouteille de champagne à un prix prohibitif pour avoir une gâterie de la fille ou quelque chose comme ça. Hein. Là, non, on rentre, il y a de la musique et... on boit un verre et simplement il y a des filles qui sont plus ou moins collantes parce qu'elles elles travaillent là et elles se prostituent, donc elles recherchent le client, quoi.
Le sésame, c'est je viens juste boire un verre.
Je pense que c'est une des grandes formules de la prostitution en général, mais alors en Espagne particulièrement. Les Espagnols ont vraiment cette coutume de dire que on peut aller boire un verre dans un bordel, on peut prendre du plaisir d'ailleurs à voir des femmes, à être entouré de femmes. Et c'est vrai, on le voit surtout à Barcelone, assez peu là dans ces bordels un peu transfrontaliers, mais à Barcelone, dans l'activité de bordel, c'est vrai qu'on voit des hommes passer exclusivement leur temps à boire des verres qu'ils paient 4 à 6 fois le prix normal, simplement pour avoir le plaisir d'être dans un club. Bien entendu, c'est aussi un alibi outrancier de tous ceux qui ne viennent pas que boire des verres, qui permet de dire qu'on va dans les bordels, mais qu'on n'est pas forcément consommateur.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez souvent ici ?
De temps en temps, ça m'arrive, oui.
Vous avez un accent du sud ?
C'est ça, exactement, ouais. De Marseille.
Ah, de Marseille, donc voilà. Ça fait loin.
Un petit peu, oui.
Vous faites un métier de route ?
Moi, je suis chauffeur poids lourd, oui.
Et vous faites souvent ce trajet-là, entre Marseille et la Jonquière ?
Oui, mais bon, c'est plus des trajets personnels que pour le travail, quoi.
Vous êtes avec des amis ?
Ben non, là, je suis tout seul.
Vous avez quel âge, à peu près ?
J'ai 29 ans.
Est-ce que ça vous arrive d'aller voir des prostituées en France ?
Non, jamais.
Pourquoi ?
Je veux dire, disons qu'en France, on n'est pas dans le même contexte. Je veux dire que ça soit question hygiène ou autre, etc., quoi. Bon, je veux dire, en France, ça se fait beaucoup dans la rue, tandis qu'ici, je veux dire, c'est plus hygiénique, plus protégé. Voilà.
Et il y a tout un protocole. Quand le client arrive, il se fait remettre un sac plastique.
Non, ça, c'est quand le client monte. Quand le client monte, qu'il paye, c'est la fille qui prend ça à la maman, c'est-à-dire c'est la femme. La maman ou la mamie, pardon, pas la maman, la mamie, et qui donne à la fille un kit qui est sous plastique, qui est une sorte de drap jetable qu'elle met sur le lit pour la passe. Il y a une serviette ou deux serviettes et un préservatif. Voilà.
Ça coûte 5 euros et ensuite on paye à la demi-heure la location de la chambre.
Voilà, quoi, la location de la fille, plus exactement.
En fait, l'argumentaire de ces clubs, c'est plus besoin d'aller en Thaïlande.
Oui, ça c'est devenu même un argumentaire commercial qui a été initié très très tôt par l'association des patrons de clubs pour toute l'Espagne. Cette association d'ailleurs a mis en place un vrai moratoire, une vraie programmatique, une vraie collaboration avec les pouvoirs publics, en disant globalement ici nos filles sont propres, elles sont suivies, etc. etc. C'est en gros un système de garantie qualité qu'ils ont mis en place, donc ils ont pu inverser leur rôle. Avant 2002, ce sont des proxénètes, depuis 2002, ce sont des chefs d'entreprise qui travaillent pour le bien commun.
Donc c'est toute une entreprise commerciale. Hein. Il y a ça va du vigile à l'entrée, à l'intérieur, des barmen, des mamies, des femmes de ménage et de la direction qui est là pour voir si tout se passe bien. Hein. Donc ça fait beaucoup de monde qui travaille là, ce qui fait que ça génère une économie importante pour la région. Hein.
Dans un premier abord, le boom en avant du commerce prostitutionnel est le fait des propriétaires terriens et des commerces de Catalogne, et notamment, on va le dire rapidement, mais des 2-3 grandes familles qui possèdent la Jonquera. Mais progressivement, plus ce commerce va se développer, notamment dans la période du début des années 2000 jusqu'à 2010 à peu près, plus les mafias vont rentrer en jeu, et notamment l'association un peu maléfique d'une des parties de la mafia russe et d'une des parties de la mafia italienne. Il faut y rajouter, bien entendu, que 90% des hommes dans les bordels sont alcoolisés, plus de 1 sur 3 est sous l'emprise de stupéfiants, notamment de la cocaïne. Donc on est vraiment dans une contre-société où on retrouve les attributs fondateurs des clubs. Il s'y passe des choses que la société ne peut pas tolérer, ne peut pas accepter, mais c'est un lieu d'exutoire.
Et bah la question ?
Vous venez d'où là tous ?
Lyon. Ah ouais, nous on est parti à quelle heure ? À 12h30. Et on est arrivé, c'était 18h. On a bu 2-3 canons, on a mangé un bout, on a bu 2-3 canons. Et là on vient faire la fête et après on part à 5h30. On rentre à Lyon et demain à midi on est à Lyon et puis on déplane.
Bon, vous venez souvent de Lyon jusqu'ici ?
J'ai vu 4 fois.
4 fois.
Nous c'est la première fois.
Et c'est plaisant, hein. On passe une bonne soirée, c'est pas excessif, l'alcool c'est pas plus cher, c'est même moins cher qu'en France. Honnêtement, c'est une soirée tout à fait rentable. Et au moins, on est sûr d'avoir ce qu'on demande et puis ce qu'on a derrière la tête, quoi. Enfin, on est tous là pour ça de toute manière, hein. On se le cache pas, hein. On travaille, on est tous des bosseurs, on a envie de se faire plaisir. On est jeune, faut qu'on profite.
Vous avez quel âge ?
24 ans.
Est-ce que ça vous arrive de vous demander d'où elles viennent, ces femmes ?
Oui, bah de toute manière, on sait très bien, parce que. De toute manière.
Moi, j'ai déjà parlé. Mais je pense pas qu'on soit tous conscients de savoir d'où elles viennent, parce qu'apparemment, j'ai vu des trucs, mais elles font des trajets, elles viennent en camion frigorifique et tout. Enfin, après, je sais pas ici, mais. Ah non, si, j'ai vu des trucs vraiment velus. Hein.
Ça, vous évitez de regarder juste avant de venir, la veille.
Carrément, je vais pas dire ça, c'est dégueulasse, quoi. Enfin...
Mais c'est vrai qu'en passant la frontière, on s'est dit, bon, bah voilà, on fait ce qu'il y a à faire, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'on est conscient quand on arrive juste devant que voilà, il se passe ce qui se passe. C'est pas du tout le même monde, quoi.
C'est un autre monde que la France, ça n'a rien à voir avec la France. Ouais. Ici, il y a des droits qui sont pas en France, c'est tout.
Et du coup, on peut se permettre plus de choses.
On est pas chez nous, on peut tout se permettre. Voilà.
C'est bon ?
C'est bon.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.
Merci, bonne soirée.
Dominique Sistac, pour les clients français de ces bordels, la démarche est particulière, ils passent la frontière.
Oui, la notion de frontière, là, est très intéressante parce que se juxtapose ou se cumule des fois dans l'esprit des acteurs un enjeu essentiel. On change de territoire, on change de langage, on change de gouvernement. On se sent donc protégé par ce passage vers un ailleurs qui n'est plus l'espace de l'intimité, l'espace de la communauté qui est la sienne. Franchir le col du Perthus, ça devient aussi un acte symbolique et ça permet aux acteurs même d'en être conscients et de pouvoir vivre au passage de la frontière la libération qui va se manifester soit par la jouissance, soit par l'ivresse, etc., etc. On peut rencontrer des gens qui disent « Chez moi, je ne bois jamais d'alcool, je mène assez peu d'activités illicites. » Et par contre, quand on est à la Jonquière, on fait la fête, on boit de l'alcool, on fume de l'herbe, on prend de la cocaïne, on va au bordel, etc. Il y a quelque chose où la dissociation s'opère et où symboliquement la frontière n'est pas qu'un marquage politique, mais se ramène à toutes les subjectivités.
Et ce qui est intéressant dans les discours des jeunes, c'est leur manière de décrire les petits clubs. Ils disent notamment qu'ils ont l'impression dans ces lieux-là que les classes sociales disparaissent et que ce qui reste, c'est au final une classe de sexe, la classe des hommes, et une autre classe de sexe, la classe des femmes, en l'occurrence les prostituées.
Donc c'est presque un lieu de sociabilité.
Oui, je crois. C'est un lieu de sociabilité entre hommes.
Et d'initiation peut-être pour certains. Ça existe encore, les cagnottes que les familles installent pour l'anniversaire du grand. 18 ans, ça se fête.
Effectivement, il y a quelques anecdotes à ce sujet-là où il semblerait qu'encore les cadeaux pour les 18 ans se fassent par un passage par la Jonquière.
Philippe Salus, est-ce que on a une idée du profil sociologique, entre guillemets, de ses clients?
Non.
Qui, dans le livre de Renaud Robardi, sont d'origine et de style très divers. Il y a celui qui, en jean, basket et t-shirt blanc, pourrait avoir l'air du type qui vient chez vous réparer le chauffage ou qui remplit le rayon fromage au supermarché. Il y a le beau parleur qui vient avec ses chaînes et sa chemise ouverte et qui montre les billets. Et puis il y a aussi les post-ados qui roulent des pelles aux prostituées comme s'il s'agissait de leur première copine.
Non, il n'y a pas de profil type. Alors là, il y a tous les âges, toutes les professions, tous les types, toutes les races. Des playboys, des gens bien sapés, des chefs d'entreprise, il y a tout ce que vous voulez. Bon, après, les chefs d'entreprise du coin catalan ne viennent pas sur les bordels situés à la frontière. Ils vont plus loin parce que pour pas faire de mauvaises rencontres, entre guillemets, quoi, voilà, pour rester discret, on dira.
Pour pas rencontrer le voisin de Perpignan, voilà. Qui fait la même chose, finalement.
Qui fait la même chose, oui.
Et au bord de la route, des jeunes femmes très, très dénudées. Et ça, ce sont les femmes qui ne peuvent pas travailler dans les clubs.
Non.
Pourquoi est-ce qu'elles sont dehors?
Ça, c'est différent. Ce sont des filles qui sont sur le bord des routes. C'est pas qu'elles veulent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas et qu'elles sont sous la mainmise de Mac et qu'elles n'ont pas le droit d'aller dans les bordels. Mais il faut voir que dans les petits clubs, je sais pas comment dire, elles sont, je dirais pas qu'elles sont émancipées, mais dans les petits clubs, il y a des filles qui ne dépendent que d'elles-mêmes, hein, et qui sont sous contrôle de personne, et qui font vivre souvent une partie de leur famille, et qui mettent de l'argent de côté pour construire une maison, etc. Hein.
Dominique Sistac, les patrons de ces clubs parlent de ces filles en termes de stock. Est-ce que pour eux qui ont un chiffre d'affaires à assurer, ces femmes sont périssables en quelque sorte?
Périssables avec des mesures et des données assez objectives. On le voit dans les tranches d'âge des filles dans les clubs. Et le taux de péremption, le taux d'usure, hein, pour parler comme un économiste, est très rapide, 4-5 ans d'exploitation.
Est-ce qu'on a une idée de ce qu'elles deviennent, les femmes qui sont obligées de quitter un club après 4-5 ans de travail?
Premier constat, les taux de morbidité par rapport aux populations identiques dans la même classe d'âge sont très impressionnantes, avec des problèmes physiologiques et somatiques assez clairement identifiés, et surtout avec des traumatismes qu'on connaît à peu près dans les mêmes contextes de militaires qui reviennent de la guerre. Il suffit de voir, il y a un carré des prostituées au cimetière de Gérone, c'est pas pour rien, quoi. Et des fois avec des corps qui ont été enterrés et qui sont anonymes. Pour les filles qui sont plutôt en haut de l'échelle et qui ont pu travailler dans les clubs en ayant un nombre de passes quotidiennes relativement mesuré, Le retour à la vie normale, globalement, pour ces femmes, se fait souvent avec une forme soit d'abstinence sociale, sexuelle et affective. Souvent aussi, elles sont tentées de redevenir, entre guillemets, prostituées, ou reviennent à la prostitution en tant qu'exploitantes, mère maquerelle, comme on le disait il y a quelques décennies en arrière. Bref, on voit que le fait est quand même tellement traumatisant sur l'instant et dans la durée, que même s'il est bref, il emprisonne pour plusieurs décennies les femmes.
Il défait son pantalon. Je fais tomber les bretelles à paillettes. Je fais glisser la culotte. Il garde sa chemise à carreaux sur le dos. Il enfile le plastique sur son truc. J'ai les yeux qui voient pas. Je vole. Je flotte. Je me mets ailleurs. Il entre. S'affale. Son souffle s'accélère. Ses coups aussi. Ça va durer longtemps. Je suis secouée comme un arbre. Secouée, secouée, secouée. J'ai mal au cœur tellement il me secoue. Ça va bientôt finir cette affaire. Mentalement, je m'encourage. Je gémis un peu. Il s'en fout. Il reste dans son délire. Pas la peine que je fasse mon numéro. Il continue seul sur la lande. Ah, il vient. Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Il a dû prendre un truc pour que ça dure aussi longtemps. Il est en sueur. Le tissu de sa chemise est hérissé de pics. Il me souffle fort dans l'oreille. On dirait un train à vapeur. Il me retourne. Il rit tout seul. Je lui dis non, pas là. Il grogne. Et il re-rentre. En me tenant la taille entre ses deux mains. Il secoue. Il secoue. Je me tiens comme je peux au dossier du lit. J'ai la peau des joues qui vibre. Je pense pas. Je ne peux pas penser. Je suis trop secouée. 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 Il me fait glisser sur le bord du lit, me re-retourne, me remonte vers lui. Il m'écarte les jambes, il reste debout, j'ai la tête à l'envers. Et il rentre encore, profond. Et ça repart, une nouvelle fois. Secoué, secoué, secoué. Le type y met toutes ses forces. Il me pince le haut des cuisses, j'ai l'impression de descendre une pente à toute vitesse. Je peux même pas arrêter les sons disloqués qui sortent de ma bouche. Putain, il vient ou quoi ?
Jeu de frontières entre la France et l'Espagne. Julie Gacon, Yvon Croisier. Avec Anne Bourrel et des lectures de son roman « Grand Madams », musique originale de Gilles Non à la guitare. Philippe Salus, éditeur des Filles de la Jonquère de Renaud Rebardi chez Mare Nostrum. Dominique Sistac, professeur de droit public à l'université de Perpignan. Sophie Alvarez, directrice du département de sociologie de l'université de Perpignan. Et Michel Vernibet, maire honoraire du Pertus. Bibliographie à retrouver sur le site de France Culture, sur la page de la série documentaire.
LSD, la série documentaire, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une zone explorée par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier Et si vous voulez y faire un tour, bibliographie, lien, et puis nous podcaster pour le voyage ou nous réécouter sur le parking, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Demain, deuxième étape, mémoire de réfugiés de guerre à la frontière luxembourgeoise. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.